Samuel Chabot, salut, comment ça va?
Comment ça va, vous autres, messieurs?
Très bien, merci.
On est d'une montagne russe. C'est la fin. Je vais détruire la civilisation iranienne. Ah, finalement, on s'est entendu, on prend 2 semaines de break.
Oui, c'est ça, tout à fait, Dominique. Tout que des rebondissements ces temps-ci sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, on en perd notre latin, je te dirais même.
Là. Est-ce qu'on peut analyser l'entente? On n'était pas là, on n'a pas vu les textes et tout, mais il y a quand même des trucs à soulever, dont, entre autres, l'histoire du nucléaire. Paraît-il qu'il y a des versions différentes en version iranienne et la version américaine? La version iranienne dit on a encore le droit d'enrichir l'uranium. C'est pas dans les textes anglais. Et tu as la question du détroit d'Hormuz. Raconte-nous ce que tu sais de ton côté ce matin.
Bien, écoute, Dominique, comme tu dis, là, la version en farci, justement, elle incluait justement le fait, si on veut, que l'enrichissement nucléaire pouvait... En fait, ça reconnaissait le droit, si on veut, à l'Iran, à l'enrichissement nucléaire. Dans la version anglaise, on ne l'a pas. On n'a pas plus de détails sur la question pour l'instant. Pour ce qui est de la question du détroit d'Hormuz, il faut savoir, là, parce que là, pour expliquer aux auditeurs, il y a eu 10 demandes qui ont été faites par l'Iran. Là, vendredi, nous autres, à Islamabad, les Américains vont aller rencontrer les différents acteurs qui ont participé aux négociations. Puis, le point important à savoir, c'est que ça va être le point de discussion lors de ces négociations-là, ça va être sur les 10 points proposés par l'Iran et non pas les 15 points proposés par les Américains. Puis ça, je t'explique pourquoi c'est important, parce que ça montre un peu, en quelque sorte, que les Américains ont vraiment besoin d'un accord. OK? On va se le dire tout de suite d'avance.
Raconte pourquoi. On a échangé pas mal, toi et moi, hier. On s'entend sur pas mal tout ce qu'on voit, finalement. Explique ce que tu viens de dire. Les Américains ont vraiment besoin d'un accord. Prends le temps de l'expliquer.
Bien, il faut comprendre que les Américains, eux autres, ils ont des accords. Si on part de la crise de l'OPEP dans les années 70, les Américains, eux autres, avaient pris il y avait une perte de confiance envers le dollar américain à l'époque. Puis les Américains, pour contrer ça, avaient décidé d'aller voir l'Arabie Saoudite, de signer un espèce de deal secret pour faire en sorte que les transactions pétrolières se fassent en dollars américains. C'était la naissance du pétrodollar, si l'on veut. Par la suite, ça s'est étendu dans les autres pays de l'OPEP, les pays du Golfe. Mais c'était en échange de quoi? C'était en échange d'accords sécuritaires. Les Américains allaient implanter des bases, etc., dans le Moyen-Orient, allaient s'occuper, eux autres, de la sécurité. Là, ce qui s'est passé actuellement avec le conflit qu'on a en Iran, c'est que l'Iran, comme on en a discuté la semaine dernière, elle a pris le contrôle du détroit d'Hormuz. Chaque attaque que les Américains et Israël envoient sur l'Iran, l'Iran riposte sur tous les pays du Golfe. Ils visent des installations civiles, ils ripostent sur des installations civiles, pétrole, ainsi de suite. C'est du tac au tac en permanence. Ce qui vient affecter énormément, si on veut, le sentiment sécuritaire des pays du Golfe. Donc, si un conflit comme ça s'étire sur le temps, et ça n'aurait pas été surprenant de voir les pays du Golfe commencer à s'écœurer puis commencer à trouver que ça coûte cher à être allié avec les Américains. Donc, on aurait pu assister à un changement de paradigme. Si on revient aux 10 demandes de l'Iran, puis je pense que je vais les couvrir au complet, ça vaut quand même
pourquoi
la peine.
Pourquoi pas? Prenons le temps.
Parce qu'on a... Là, les 10 demandes de l'Iran qui vont être négociées au Pakistan, c'est on a un pacte de non-agression entre les États-Unis et l'Iran. Donc, eux autres, ce qu'ils cherchent à faire avec cette ligne-là, finalement, c'est d'éviter de se faire détruire un peu comme Gaza, etc. Ils veulent pas avoir un cessez-le-feu pour par la suite donner de la chance à leur adversaire de reprendre en armes et de revenir les bombarder. Ça, c'est le premier point.
OK, je vais me permettre, Samuel, à chacun de tes points, j'ai une question à te poser. Point 1, déjà d'entrée de jeu, est-ce que ça inclut les pays du Golfe? Parce que pacte de non-agression, le Bahreïn aimerait ça être là-dedans, puis le Koweït aussi, là, eux autres sont tannés de manger des baffes, là.
Non, c'est clair. Mais le pacte de non-agression, pour l'instant, c'est parce qu'il y a aussi il y a un autre point qui est la cessation des hostilités sur tous les fronts.
Ah, OK, parfait.
Donc, ça implique que, pour l'instant, il n'est pas supposé avoir aucun bombardement, aucun des côtés.
OK.
Ensuite, il y a le maintien du contrôle de l'Iran sur le détroit d'Hormuz. Ça, c'est le point le plus essentiel. Parce que si l'Iran conserve... Admettons qu'on arrive aux négociations et que les Américains décident d'accepter ce point-là. Si l'Iran conserve... le contrôle sur le détroit d'Hormuz, ça peut venir changer carrément la dynamique du Moyen-Orient au complet.
C'est une défaite. Il y a 2 mois, c'était pas ça. Et maintenant, l'Iran aurait gagné le contrôle sur le canal. Donc, c'est tout un recul géopolitique pour les Américains. Qu'est-ce que t'en dis?
C'est énorme, parce que non seulement ça, c'est parce que ça implique que tous les pays du Golfe qui font du commerce dans le détroit d'Ormuz vont devoir faire affaire avec l'Iran.
Et payer des taxes, peut-être, dans telle devise. Donc, ils te prennent par les bijoux de famille, en clair, là. À peu près
exactement,
ça,
hein? Exactement. Parce que là, l'Iran, elle, ce qu'elle veut faire, c'est parce qu'elle, dans ses premières propositions qu'elle avait données il y a quelques jours, avant que ceux-là sortent, il y avait un point où est-ce qu'elle demandait aux Américains de rembourser la totalité des destructions du pays en Iran. Bien sûr, on sait très bien que les Américains auraient, et Israël auraient refusé complètement. Par contre, sa manière à elle actuellement de peut-être aller chercher, si on veut, ces gains-là pour se reconstruire, ça serait via des tarifs imposés dans le détroit d'Ormuz. Puis là, il y a des chiffres qui commencent à circuler. Là, on parle d'environ 2 millions là, de la cargaison. Là.
Ça pourrait voyons donc, -là. 2 millions oui. de dollars US?
On ne sait pas la devise encore. Là, ce qu'on sait actuellement, c'est que les seuls bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz actuellement, il faut que la devise soit employée, c'est le yuan.
Qui est la devise chinoise. Ça,
exactement. Donc, est-ce que ça sera en dollars américains? On n'en a aucune idée encore, mais ça ferait excessivement mal aux Américains. Peu importe dans quel angle qu'on regarde, ils perdraient la mainmise, si on veut, sur Ormuz, puis un peu sur les pays du Golfe, qui eux autres seraient obligés de faire des deals avec l'Iran directement.
C'est une humiliation. Là. Continue tes points, là, mais d'entrée de jeu, selon ce qui est observé, quels que soient les médias, là, en passant, là, moi, je lis de toute gauche-droite, avant-arrière, gauche-droite, tel pays. Moi, je lis Trump's humiliation. Tu lis ça de ton bord aussi?
Oui, c'est une humiliation. En fait, là, on est vraiment dans un cadre de damage control. On essaye de stabiliser le plus possible la situation actuelle. Mais tant que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz dans le cas du conflit puis qu'il répond du tac au tac, même s'il y aurait une reprise des hostilités, les Américains sont toujours coincés dans le coin du mur à cause de ça.
On dit, le Daily Mail vient de sortir que ce serait 1 million US par bateau.
Okay,
ça vient de sortir. 1 million US par bateau.
Bon, voilà. Donc, c'est ça. On parlait justement, il y avait plusieurs chiffres qui circulaient, là, mais s'il confirme 1 million, mais c'est 1 million quand même. T'sais, si on part du principe qu'environ en moyenne 140 bateaux qui passaient là par jour avant le barrage, c'est 140 millions d'impôts de l'Iran à tous les jours. Tu comprends? Ensuite, l'autre, c'est la reconnaissance du droit de l'Iran à l'enrichissement nucléaire. Donc, à suivre si les Américains vont tolérer ça, parce qu'on se rappelle que c'était une des deux conditions pour laquelle il allait intervenir. Donc là, si l'Iran continue l'enrichissement nucléaire, c'est encore une autre défaite sur un autre angle pour les Américains. J'ai hâte de voir la suite. En revanche, ça pourrait servir de point de négociation si les États-Unis permettent à l'Iran de conserver le détroit d'Ormuz, peut-être que l'Iran serait prêt à flancher sur le nucléaire parce qu'elle regagnerait, si on veut, une forme de cadre sécuritaire dans la région des pays du Golfe. Parce que honnêtement, les pays du Golfe regarderaient Israël et lui diraient, là, tu lâches l'Iran tranquille, nous autres, on a besoin d'elle pour faire des business. Tu comprends? Fait qu'on est un peu dans cette situation-là. Ensuite, c'est toute la levée des sanctions primaires américaines, là, que ça fait au-dessus de 40 ans que l'Iran est sous sanctions, qui a amené toute la monnaie, la devise.
Les sanctions contournées par la Chine, la Russie allègrement, par à peu près tous les pays, là.
Exactement. Puis ça, il y a un autre point aussi qui implique la levée de toutes les sanctions secondaires affectant les pays tiers, ce qui est énorme aussi, là. Fait que donc, ça permettrait littéralement, ces deux points-là permettraient à l'Iran de revenir à l'échelle internationale sur le plan du commerce international.
C'est une catastrophe. Ça commence à pisser. Étant donné que, puis là, on va parler de Vance, J.D. Vance, je vais t'entendre là-dessus. Évidemment, J.D. Vance, donc, il y a des conseillers, il faut toujours parler de l'aréopage des politicos, tu as toujours des attachés, tu as des frotteux autour et tout ça. À un moment donné, ce monde-là, ça pisse, là. Ça parle à mon oncle, ma tante, ici, et ça, sans dévoiler des secrets d'État. Il n'en demande pas moins qu'on se rend compte que ça ne faisait pas l'unanimité. On raconte dans le Daily Mail de ce matin que le chef de la CIA a dit que l'idée de changer le régime était une farce, que le régime ne pouvait pas être changé. J.D. Vance était d'accord avec le gars de la CIA. Il disait « It's a bad idea » de penser que, justement, en faisant sauter les messieurs avec des jupes, que le changement de régime, tout à coup, se ferait. D'ailleurs, le tweet, on s'en souvient, de Donald. Hein, prenez la rue, là, puis garde, gâtez-vous. Aussitôt qu'on a tué Khamenei, ce qui n'est jamais arrivé, mais Donald est allé avec son instinct. C'est ça qui se dessine à l'heure actuelle. c'est que Donald, avec ses émotions, est allé avec son instinct. Et au final, J.D. Vance, je vais t'entendre hier, ça a rebondi, ça, là. J.D. qui était sur un autre continent complètement. Ça veut dire quoi, ça?
Ben écoute, J.D. Vance, on le connaît d'emblée. On se rappelle, là, au début du conflit, là, J.D. Vance, on l'a perdu de vue hein, dans la sphère publique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne le voyait pas. Pendant presque 3 semaines, J.D. Vance était absent des acteurs qu'on voyait impliqués dans les décisions de l'Iran. Faut savoir que J.D. Vance demeure quand même le vice-président, mais même Donald Trump avait affirmé qu'il y avait une divergence philosophique sur le conflit de l'Iran. J.D. Vance, c'est le premier, si on veut, défenseur du principe America First.
C'est MAGA pur.
C'est MAGA pur. Puis il faut comprendre qu'actuellement, la crise iranienne, ça entraîne une crise politique, si on veut, au sein même des États-Unis. Puis ce qui est intéressant de voir, c'est la posture de J.D. Vance, qui n'a pas le choix de rester légèrement en retrait de toutes ces prises de décision-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est vu, avec Marco Rubio, de peut-être être, si on veut, le remplaçant de Donald Trump pour les prochaines élections dans 2 ans. Donc, ben, 2 ans et demi environ. Donc, il n'y a pas le choix de rester en retrait. Puis, on sait très bien que pour lui, le conflit iranien, c'était une erreur monumentale. OK? C'est sans aucun doute, c'est sans équivoque. Donc, on est vraiment dans cette posture-là. Puis, ce qui est drôle avec J.D. Vance aussi, c'est que quand on avait les premiers négociateurs de Donald Trump qui négociaient avec l'Iran, c'est l'Iran qui a fait la demande pour négocier avec J.D. Vance. Donc, c'est l'Iran qui impose aux Américains le négociateur américain avec qui ils veulent faire affaire. Heureusement, ça semble avoir fonctionné. Parce
ça, c'est un signe de faiblesse en maudit. Là.
C'est un signe de faiblesse.
Qu'est-ce
mais
qu'on
en même
dit,
temps,
les Iraniens? On ne veut pas Witkoff, on ne veut pas Jared, là, qui est utilisé à toutes les sauces en passant. Le gendre,
oh, oui.
Il fait-tu le café le matin? Il fait tout, là. Le gendre, il prend beaucoup de place.
On se rappellera aussi que Donald Trump avait été critiqué lors de sa nomination de Kutcher, puis il avait dit qu'il ne serait jamais impliqué dans les décisions concernant l'Iran. Puis il l'a mis quand même là. C'est lui qui était négociateur avec Witkoff. Donc, on en est là. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Vance... Il se met beaucoup une branche, ben, la branche MAGA de son côté. Oui. Donc, ça pourrait l'aider éventuellement sur un plan politique plus tard. Il est arrivé aussi avec les négociations. On a un cessez-le-feu temporaire, mais au moins, il y a quelque chose qui avance. Donc, pour lui, ça se présente bien. Maintenant, ça va être à suivre sur le plan américain global. Là, c'est peut-être que la situation va être différente. Là. J'ai hâte de voir les résultats qu'on risque d'avoir après vendredi. Là.
Évidemment. Il y a dans l'univers des Trump lovers. Ah non, regarde, il est parfait. OK, parfait. On va se forcer un matin. On se force-tu, Samuel, un matin, à se trouver quelque chose de positif? On va forcer, là, on va pousser bien, bien fort. Peut-être que le bébé va sortir. Là. Y a-tu quelque chose qui pourrait peut-être être un peu positif dans ce qui s'est passé pour les Américains et pour Trump ou pas pantoute?
Bien, la seule chose que je verrais rapidement.
Ben,
comme
la bourse
puis
le gaz.
Oui, ben c'est ça. Puis il y a aussi un aspect, qu'est-ce que la crise dans le détroit d'Ormuz a permis d'exposer, si on veut, c'est la concentration, si on veut, sur le plan du commerce international, à quel point on est dépendant d'une seule région dans le monde pour les matières pétrolières. Ce que ça peut risquer d'engendrer, puis qui pourrait être positif pour les Américains, c'est que certains pays, au lieu de se tourner vers les pays du Golfe pour leur pétrole, auraient tendance à se tourner vers le marché américain pour avoir du pétrole.
Et l'Europe vers la Russie.
Oui, exactement. T'sais, on s'entend que...
Je vais pas repartir pendant une demi-heure, là, mais il y a ça aussi, là. Vlad,
le premier gagnant, c'est Vladimir Poutine en ce moment. Là.
C'est ça. Exact.
Parce qu'il y avait des problèmes de financement avec sa guerre en Ukraine, là, avec le prix du baril, ça l'aide énormément. En plus, il y a les Américains qui s'en vont demander à Zelensky d'arrêter de bombarder les installations pétrolières de la Russie pour que le pétrole circule.
Imagine-toi.
Donc, on en est là actuellement. Là.
On en est là.
Mais Mais j'espère sincèrement que le conflit va se résorber parce que si on retombe dans une escalade de la puissance dans ce conflit-là, si les Houthis décident d'intervenir et de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, qui viendrait bloquer la mer Rouge et le canal de Suez, et de bombarder le pipeline qui est en Arabie Saoudite d'est en ouest, on pourrait se ramasser avec une crise économique nettement plus majeure que ce qu'on a là actuellement. Là. Fait qu'on va espérer que tout va rester stable. Si ce détroit-là se barre, c'est 12 % du commerce mondial qui est bloqué.
Et en finissant, que vous soyez démocrate, républicain, de gauche, de droite, par en avant, par en arrière, j'en ai rien à cirer, on est obligé quand même de conclure à la lecture des derniers tweets de Donald Trump que ça va pas bien. Pas vrai, là. Je vais détruire la civilisation iranienne. Je veux dire, c'est le président américain. Je comprends qu'il fait des affaires rigolotes. Ah, c'est Trump, on entend ça depuis Trump 1. Puis à quelque part, Trump 1, j'étais capable de vivre avec ça dans la mesure où c'était un personnage de télé-réalité et tout ça. Il y avait une couleur. Mais là, c'est parce que I will destroy all the fucking bridges. Puis, tu sais.
Sinon,
il y a quoi, qui marche pas, Samuel, pour vrai, là? Sérieusement.
Non, non.
Il faut se parler.
Non, puis d'ailleurs, même le président de l'ONU a dit publiquement que ça constituait un crime de guerre. Ça va directement à l'encontre, Dominique, là, de la Convention de Genève. Là. Puis ce qui est encore plus, quand je parle de crise politique un peu à l'interne au sein de l'administration Trump, c'est que ce genre d'ordre-là, il y a le code... aux États-Unis, il existe le code uniforme de justice militaire. Ça, ça a été fait de suite durant le procès de Nuremberg, on se rappellera. Donc, l'argument... de dire « Ah, on ne suivait que les ordres », ça n'est plus légal. Ça ne peut plus être utilisé comme un argument. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est que là, les généraux, s'ils se seraient retrouvés à devoir bombarder les infrastructures civiles alors que ça constitue un crime de guerre, auraient pu être poursuivis
responsable, personnellement. Exactement. Exact. Extraordinaire, Samuel. On s'en reparle dans deux semaines, Samuel Chabot. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Salut.
Messieurs.
Bye.
Au revoir. Bye-bye.
Salut. Bye. Aux deux semaines, Samuel va... Mais là, on était en crise. On y a parlé la semaine passée, mais on y parle cette semaine.
Mais c'est une grosse crise, en
Qu'est-ce
plus.
Qu'est-ce qui se passe de ça?
Ben,
C'est une méchante claque. Sa gueule, là. Excuse-moi, là, pour les Américains. Là, je me forge, j'essaie de voir en quoi c'est positif. C'est... Hey, le régime est là, se radicalisera. Il y a encore une menace, donc, pour Israël. C'est un régime que tu peux pas anéantir aussi. Tu peux pas utiliser... Art of the Deal contre des islamistes qui veulent mourir. C'est une autre réalité. Ces gens-là veulent mourir et il y a des bonnes femmes voilées qui voulaient envoyer leurs enfants soldats là. Oui, 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 mon petit Mohamed, il va être un martyr. C'est une autre réalité. Puis on n'a pas appris de l'Afghanistan puis d'ISIS.
Zéro. On n'a pas appris de l'Afghanistan. 9/11. À long terme, on n'a pas appris du Vietnam non plus. Là. C'est, moi, la journée, le samedi matin, que ça s'est passé.
Oui.
Puis que j'allais l'appeler Tiger Woods. Que Donald Trump a dit qu'il fallait un changement de régime. Je me disais, c'est impossible un changement de régime s'il n'y a pas des bottes sur le terrain.
Oui, on en a parlé en ondes.
Exactement.
On en a parlé
et
en ondes.
C'est clair que Donald Trump.
Puis moi, je disais, c'est une mauvaise idée.
Ben oui, mais.
Mais t'avais raison. Mais
c'est impossible.
J'avais raison aussi.
Oui,
dans la mesure où. C'était impossible, même Boots on the Ground, de faire décoller ce régime-là.
Exactement.
T'as un million de soldats, t'as des enfants. Imagine les images, tu te bats contre un enfant de 10 ans.
Et l'autre chose qui dérange beaucoup,
c'est des fous. Ce sont des fous d'Allah. Tu peux pas.
L'autre chose qui dérange beaucoup aux États-Unis, c'est qu'il a dit qu'il voulait plus être le policier, le justicier du monde. Donald Trump ne veut plus que les États-Unis se positionnent comme étant... Ils ne veulent plus de pertes américaines pour sauver les autres pays. Et c'est exactement ce qu'on fait.
On va jaser avec Julia Texan tantôt. D'après moi, elle doit être en sacrifice, elle aussi. Là, ben, représente le côté MAGA. Mind your own business, c'est ça aussi, MAGA.
Complotiste Dan, non? Je te dirais ceci. Qu'est-ce que le Mossad a sur Donald Trump que le reste du monde n'a pas? Quels sont les documents que le Mossad a montré à Donald Trump en lui disant « On rend ça public si jamais tu fais pas le job avec nous autres? »
On sait pas tout.
Ben non, c'est sûr qu'on sait pas tout.
On sait rien. Là. Wow.